Commission, appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine à tous, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la situation pour le moins préoccupante à la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Depuis maintenant un mois, l'Angola mène une opération visant les étrangers en situation irrégulière et selon l'église congolaise, plus de 500 000 personnes ont déjà été refoulées vers le territoire congolais. Les évêques s'inquiètent évidemment du sort de ces réfugiés qui sont livrés à eux-mêmes dans les villages frontalier du Kasaï où la situation humanitaire est alarmante, des évêques qui craignent même que ces expulsions ne menacent la paix entre la RDC et l'Angola. Alors justement, partagez-vous cette inquiétude, que vous inspire la gestion de cette crise? Vous êtes nombreux à souhaiter prendre la parole, vous nous continuez à nous appeler, vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure et quelques témoignages d'ailleurs pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, c'est votre rendez-vous privilégié avec nos journalistes ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, toutes vos questions sur les sujets qui vous interpellent, sur les sujets où vous avez besoin peut-être d'un complément d'information. Et nous allons revenir sur l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi au Pakistan, c'était il y a quelques jours. Senkun, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les éditeurs de RFI.
Vous nous avez contacté de Conakry, vous êtes ce matin sur l'antenne de RFI, on vous écoute.
D'accord, merci Juan. La chrétienne Asia Bibi avait été condamnée en 2010 à la peine de mort pour blasphème. Elle a finalement été acquittée par la Cour suprême. Alors j'ai deux questions à ce propos-là. Quels sont les éléments qui ont permis d'acquitter Asia Bibi 8 ans après sa première condamnation? Et ma seconde question, Asia Bibi elle-même est-elle sortie d'affaires?
Alors, bonne question, est-elle sortie d'affaires, d'autant qu'on a bien suivi sur nos antennes de RFI la colère qu'avait provoquée la décision de la Cour suprême, des milliers d'islamistes radicaux dans les rues des principales villes pakistanaises. Bonjour Vincent Sourio.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI. Asia Bibi, condamnée donc il y a 8 ans pour blasphème. Elle a été acquittée la semaine dernière. Sur la base de quels éléments?
Eh bien, parce que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de ces insultes envers le prophète Mahomet. C'est ce que dit la Cour suprême, il n'y a pas eu d'insulte, donc il ne peut pas y avoir de blasphème. La suite logique, c'était d'acquitter et de libérer Asia Bibi. Ce qui a fait basculer la décision des magistrats, ce sont les témoignages des plaignantes, qui sont très fragiles. Première chose, elles n'étaient que 3, alors que cette scène de blasphème se serait déroulée devant une assemblée très fournie. Si Asia Bibi avait blasphémé, tout le monde l'aurait entendu. C'est le raisonnement des juges. Deuxième chose, la version des plaignantes n'est jamais la même. Par exemple, quand on leur demande où s'est déroulé cet incident, la première répond « chez mon père », la deuxième « chez un voisin », et ainsi de suite. Il n'y a pas de cohérence dans leur récit, et les magistrats le disent, on ne sait pas où la scène a vraiment eu lieu, on ne sait pas qui était présent, on ne sait pas combien de personnes il y avait dans l'assistance, comment Asia Bibi est arrivée là. Les versions changent en permanence, en résumé, impossible de croire les témoins, ce qui renforce la thèse d'Asia Bibi, à savoir un procès monté de toutes pièces contre elle, parce qu'elle était chrétienne. La Cour suprême ne va pas jusque-là, elle ne parle pas de complot, mais elle estime que les témoignages sont trop fragiles, qu'ils ne sont pas fiables et qu'en conséquence, au bénéfice du doute, on ne peut pas condamner quelqu'un à mort sur la foi d'un crime qui n'est pas établi.
Malgré cet acquittement, le sort d'Asia Bibi reste incertain. Rappelons que pour l'instant, elle est toujours incarcérée.
Elle est toujours en prison, dans le centre du pays, et elle est loin d'être tirée d'affaire. Pour répondre à votre deuxième question, après la décision de la Cour suprême la semaine dernière, on pensait qu'Asia Bibi allait quitter le Pakistan de toute façon pour demander l'asile en Europe parce qu'elle n'était pas en sécurité, effectivement menacée par les islamistes depuis des années. On pensait que son départ était acté et qu'avec des mesures de sécurité draconiennes, elle parviendrait peut-être à quitter le Pakistan. Mais ça, c'était avant l'accord dont vous parliez, Juan, accord conclu entre le gouvernement et les islamistes pendant le week-end. C'est un texte qui permet d'engager un recours contre l'acquittement d'Asia Bibi. En quelques mots, ça signifie que les autorités pakistanaises, pour obtenir le retour au calme pour éviter que les manifestations d'islamistes ne continuent au Pakistan, ont offert à ses adversaires, aux adversaires d'Azabibi, une nouvelle fenêtre judiciaire, un nouveau recours en quelque sorte, et qu'elle va devoir attendre l'issue de cette nouvelle procédure pour être libérée et peut-être quitter le Pakistan. D'ici là, elle risque toujours d'être assassinée en prison ou quel que soit l'endroit où elle va trouver refuge du moment qu'elle est à l'intérieur des frontières du Pakistan.
Ouais, et c'est compliqué pour elle puisque son avocat a quitté le Pakistan, il craignait lui aussi pour sa vie.
Exactement, les juges eux-mêmes, les juges de la Cour suprême ont été menacés par ces islamistes qui ont demandé leur tête parce qu'ils ont osé prononcer l'acquittement d'Asia Bibi, une chrétienne, alors qu'elle était accusée de blasphème. Même s'il n'y a pas eu blasphème selon la Cour suprême, les islamistes considèrent qu'elle a offensé le prophète. La deuxième chose, effectivement, c'est que l'avocat lui-même d'Asia Bibi a été obligé de quitter le pays parce que malgré la protection policière qu'il avait demandée, il ne l'a pas obtenue et lui-même risque d'être tué à chaque instant parce qu'il a osé prendre position en faveur d'une chrétienne.
Oui. Et aujourd'hui, le mari d'Asia Bibi demande l'asile pour sa famille, demande formulée à l'égard des États-Unis, de la Grande-Bretagne, mais aussi du Canada. Sen Koun, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, Oran, comme toujours.
Merci de votre fidélité. Merci Vincent Souriau.
Avec plaisir, à bientôt.
D'être venu répondre donc à Sen Koun qui nous appelait de Conakry. 9h16 à Paris, on réceptionne vos questions au standard. Nous notons votre prénom, votre numéro de téléphone et nous vous rappelons évidemment dans les minutes qui suivent. Bonjour Delphin.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin, à Abomey-Calavi, à quelques kilomètres de la capitale, Cotonou. Vous avez des questions, vous, sur les violences sexuelles en Corée du Nord?
Évidemment. L'ONG Human Rights Watch a rendu un rapport sur des abus sexuels perpétrés contre les femmes nord-coréennes. Alors, je voudrais savoir comment a-t-elle pu rendre un tel rapport, sachant que la Corée du Nord est inaccessible. Enfin, que révèle ce rapport sur l'organisation de la société nord-américaine, coréenne?
C'est vrai que la Corée du Nord est un pays extrêmement fermé, que ce pays n'autorise aucune enquête, aucune étude indépendante sur les droits de l'homme dans le pays. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Juan, bonjour Delphin.
Correspondant de RFI à Séoul, l'ONG a publié des témoignages accablants démontrant que les abus sexuels commis par les policiers et autres représentants de l'État sur des femmes seraient monnaie courante en Corée du Nord. Comment cette enquête a-t-elle pu être réalisée ?
Alors, c'est vrai que c'est complètement impossible de mener une telle enquête à l'intérieur de la Corée du Nord, et c'est pourquoi cette ONG, Human Rights Watch, a interrogé 54 réfugiés nord-coréennes et 8 anciens officiels nord-coréens qui ont récemment fui leur pays. Parmi ces femmes se trouvent d'anciennes détenues. Ces entretiens, ils ont eu lieu en Corée du Sud et dans des pays tiers. L'ONG précise aussi qu'ils n'ont pas été rémunérés. Human Rights Watch a aussi organisé des discussions de groupe avec plusieurs femmes réfugiées afin de confronter et de comparer leurs témoignages. Toutes les personnes interrogées ont utilisé des pseudonymes pour cacher leur identité afin de protéger les membres de leur famille qui vivent toujours en Corée du Nord. C'est important de souligner que ces 54 femmes interrogées ont des âges variés. Elles viennent de différentes provinces de Corée du Nord, de différentes classes sociales, mais leurs témoignages concordent, ce qui semble montrer que ces viols et ces violences sexuelles perpétrées par des officiels nord-coréens en toute impunité, eh bien, ce sont des pratiques, hélas, courantes et très répandues.
Oui, Delphin nous demande également que révèle ce rapport sur l'organisation de la société nord-coréenne.
Eh bien, pour résumer, l'enquête montre que n'importe quel officiel nord-coréen en position d'autorité, qu'il soit policier, officiel du parti, soldat, interrogateur, gardien de prison, procureur, eh bien, peut en toute impunité abuser de son autorité pour violer ou faire subir des violences sexuelles aux femmes. Ces nord-coréennes n'ont aucun moyen de résister, et pire, par honte ou par crainte de stigmatisation sociale, elles préfèrent se taire, elles ne portent pas plainte, les rares qui osent le faire risquent de violentes représailles. L'ONG affirme que ces violences sexuelles sont si courantes en Corée du Nord qu'elles sont, et là je cite le rapport, acceptées comme faisant partie de la vie quotidienne.
Et ce rapport explique aussi que ces violences sont particulièrement répandues dans les prisons et sur les marchés. Pourquoi ?
Alors, c'est étonnant. C'est vrai que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'effondrement économique du pays dans les années 90, ce sont en majorité les Nord-Coréennes, les femmes, qui font vivre leur famille grâce au marché noir. Pendant que leur mari est obligé de se rendre à son travail officiel et très mal payé, ces femmes font du commerce. Et souvent, elles sont obligées de se déplacer à l'intérieur du pays. Elles ont donc gagné en liberté, mais elles sont aussi devenues des proies faciles pour les fonctionnaires et les officiers qui contrôlent les marchés, ainsi que les routes et les moyens de transport. Les femmes dans les prisons sont aussi particulièrement vulnérables. Human Rights Watch a publié des témoignages qui sont absolument effroyables, des témoignages d'anciennes détenues qui racontent les viols quotidiens par leurs gardiens. Une de ces femmes explique avoir été violée par un officier qui a rempli les papiers pour sa libération dès le lendemain. L'ONG accuse donc le régime nord-coréen de fermer les yeux sur ces pratiques très répandues, de faire aucun effort pour enquêter, punir les coupables et éduquer la population sur ce problème.
Peut-on imaginer, Frédéric Ojardias, que les pays voisins interviennent, fassent quelque chose après la publication d'un tel rapport ?
Alors oui, justement, quand ils ont présenté leur rapport, les représentants de Human Rights Watch ont lancé un appel aux pays qui discutent en ce moment avec la Corée du Nord pour que ces pays demandent au régime d'agir pour mettre fin à ces viols. Mais le problème, c'est que ces pays sont peu susceptibles de le faire. La Corée du Sud cherche en ce moment surtout à améliorer à tout prix ses relations avec Pyongyang et elle évite soigneusement de parler de droits de l'homme pour éviter de froisser le régime. Quant aux États-Unis, ils s'intéressent surtout au nucléaire. Après avoir rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en juin, le président américain Donald Trump avait même déclaré que Kim était quelqu'un qui aime son peuple. Il ne faut donc guère espérer une amélioration prochaine du sort des femmes nord-coréennes.
En tout cas, la délégation nord-coréenne aux Nations Unies à Genève a rejeté dès mercredi catégoriquement ces accusations qu'elle a qualifiées de fictives. Delphin, êtes-vous satisfait des explications de notre correspondant à Séoul ?
Merci à vous, Juan.
Et un grand merci donc à Frédéric Ojardias qui est sur place pour RFI. Bonne journée à tous les deux. 9h22, continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Bonjour Lionel.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous êtes à Libreville, au Gabon. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions ?
Merci Juan. Alors, dans l'actualité de la semaine dernière, nous avons appris que des hackers, notamment Anonymous, ont piraté les sites officiels du gouvernement gabonais. À ce propos, j'ai deux interrogations. D'abord, comment Anonymous a-t-il procédé pour pirater les sites officiels du gouvernement gabonais ? Et dans l'histoire des hackers, l'on sait notamment l'histoire de WikiLeaks que les pirates attaquent les sites pour accéder à des informations. Alors, dans le cas d'espèce, c'est le contraire. Quelles sont réellement les motivations d'Anonymous en piratant les sites officiels du Gabon ?
Oui, le collectif Anonymous, groupe de hackers qui opère à travers le monde en lançant des attaques informatiques pour faire passer des messages politiques. Bonjour Yves-Laurent Goma.
Bonjour Juan Gomez.
Correspondant de RFI à Libreville. Alors effectivement, plusieurs dizaines de sites institutionnels gabonais ont été la cible de ce collectif. Une semaine après ces attaques informatiques, sait-on comment les hackers sont-ils procédés ?
Non, on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé et surtout comment les anonymes ont effectivement procédé. Mais selon un communiqué de l'ANINF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, le service qui gère Internet au Gabon, les anonymes ont procédé à une attaque de type déni de service, c'est-à-dire DDoS. Ce type d'attaque consiste à saturer le réseau informatique par l'envoi massif de requêtes. Le ou les sites concernés se sentent étouffés, asphyxiés, étranglés et finalement cessent de fonctionner, ce qui est arrivé au site gabonais. Les Anonymous n'ont jamais démenti cette version officielle. Il est donc probable que ces hackers n'ont pas pris le contrôle des sites visés puisqu'ils n'ont publié aucun message à partir de ces sites. Ils n'ont pas aussi planté de drapeau comme grand symbole d'occupation. Je rappelle qu'en 2016, plusieurs sites d'information au Gabon étaient déjà victimes de ce genre d'attaque. L'on avait soupçonné le gouvernement d'avoir fait recours à des services israéliens pour faire ce test qui était un véritable succès.
Alors, en tout cas, le groupe Anonymous s'est spécialisé dans toutes ces attaques informatiques pour faire passer des messages politiques. Que cherchait-il en s'en prenant au Gabon ?
Bon, il faut dire que quasiment toutes les opérations, vous l'avez dit, que les Anonymous mènent sont des opérations de communication. Ils ne revendiquent pas une portion d'un territoire. Les Anonymous sont des activistes non identifiés. C'est que ceux qui ont réalisé la cyberattaque surprise et massive contre le Gabon ont accusé le pays d'être une dictature. L'attaque qui a paralysé 60 sites gouvernementaux sur 102, je le rappelle, est donc une opération, selon eux, de représailles contre la dictature. C'est leur propre expression, bien sûr. Les dictateurs auraient dû s'attendre à nous, ont-ils posté sur Twitter. J'ajoute aussi que ce n'est pas pour la première fois que les Anonymous se signalent au Gabon. En 2013, ils avaient mis sur pied une campagne de sensibilisation pour soutenir les associations gabonaises de lutte contre les crimes rituels.
Oui, c'est effectivement il y a 5 ans. En tout cas, depuis, tous les sites institutionnels ciblés par ce collectif Anonymous fonctionnent évidemment correctement. Merci beaucoup Yves-Laurent Goma d'avoir été en direct avec nous et d'avoir surtout répondu à Lionel qui était en ligne de Libreville au Gabon. Nous allons terminer avec Karim. Bonjour Karim.
Bonjour.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, oui. Et vous avez des questions, oui, sur le Soudan du Sud.
Effectivement.
On vous écoute.
J'ai appris que le chef rebelle Riek Machar a fait son retour au Sud-Soudan lors d'une cérémonie autour d'un nouvel accord de paix avec le président Salva Kiir. Alors, à ce sujet, ma question est de savoir, avec ce retour et le nouvel accord de paix, peut-on réellement espérer un effet positif dans le long terme ?
C'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si Marc Lavergne, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan, a une boule de cristal pour vous répondre avec précision à cette question, mais une question que tout le monde se pose. Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Après 2 ans d'exil, le chef rebelle, Riek Machar, est donc revenu à Juba. C'était il y a quelques jours, au moment de cette grande cérémonie pour célébrer la signature d'un énième accord de paix avec son ennemi juré, le président du Soudan du Sud. La page est-elle définitivement tournée ?
Ben non, je n'ai pas de boule de cristal, mais effectivement l'expérience parle quand même, c'est-à-dire que cet accord de paix qui a été signé le 12 septembre n'a pas beaucoup de raisons et de chances de tenir, hein, puisque la guerre civile qui a été déclenchée en 2013, elle est motivée par la compétition entre ces deux dirigeants, Riek Machar et Salva Kiir, le président. Rien n'a changé sur le tableau, ces deux dirigeants sont incapables, et depuis l'indépendance du pays en 2011, n'ont rien fait pour améliorer le sort de la population. Ils sont sans scrupules. Ils ont chacun une armée qui a une base souvent ethnique. Il faut payer cette armée. Donc le pays a été dévasté et pillé. Maintenant, tout le monde le sait. La raison en était que les caisses étaient vides. Alors effectivement, c'est un pays qui n'est pas pauvre, hein, puisqu'il reçoit du pétrole, mais le prix du pétrole s'était effondré, donc l'armée s'est payée sur la population. Maintenant, le prix du pétrole remonte, on peut imaginer que les choses se calment un peu pour la population civile. Mais sur le fond, cette incapacité, cette absence de scrupules sont toujours là, et on le voit dans les termes de l'accord qui a été signé le 12 septembre, aucune considération pour vraiment le développement du pays. Oui. C'est simplement un partage des postes et des prébendes.
Et ce qui interpelle à chaque fois Marc Lavergne, c'est que c'est sous la pression de la communauté internationale que les deux hommes se réunissent, se mettent autour d'une table pour conclure des accords qu'ils ne respectent pas ensuite. Donc on doute de la réelle volonté des deux à mettre fin à cette guerre.
Oui, tout à fait, mais on peut aussi s'interroger sur la capacité et la volonté de la communauté internationale à vraiment mettre un terme à ce conflit, dans la mesure où le Sud-Soudan est né sous les auspices de cette communauté internationale, et en particulier des États-Unis. Donc l'ONU entretient une force militaire importante de 13 000 hommes qui coûte très cher à la communauté internationale, sans aucun effet sur le terrain. Il y a aussi des conseillers, il y a une sorte d'administration civile qui avait été mise en place par l'ONU. Tout ça n'a servi à rien. Les États-Unis, qui ont été les parrains de cette indépendance, se sont désintéressés de la question. Maintenant, un embargo a été signé récemment sur les armes, mais c'est un embargo, faut dire, sans aucun effet pratique, parce que les armes légères dont les gens se servent peuvent être trouvées sur n'importe quel marché dans la région. Donc voilà, on est beaucoup dans une sorte de faux semblant. Ce qui est plus conséquent peut-être, c'est que d'un côté il y a Khartoum, puisque Riek Machar, à peine fini la cérémonie dont on a parlé le 31 octobre,
il est parti.
Est reparti en avion à Khartoum.
Effectivement.
C'est-à-dire que rien n'est prêt, il ne se sent pas en sécurité dans le pays dont il doit redevenir le vice-président.
Donc ça s'annonce bien compliqué effectivement pour l'avenir du Soudan du Sud. Merci Marc Lavergne d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à Karim. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes, on parlera de la situation alarmante à la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Il est 9h30 ici à Paris.